Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 avril 2017 et j'enregistre l'épisode 51. Salut à tous, donc bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Tech Café. Vous allez m'entendre seul discuter, une forme de monologue inspiré par les streetcasts qui ont le vent en poupe en ce moment, tous ces petits podcasts individuels enregistrés en mobilité, où finalement ce sont des séries de monologues. Pour une raison principale, c'est que j'étais pas certain d'enregistrer cette semaine et j'ai pas voulu dimensionner la présence des chroniqueurs qu'il peut y avoir d'habitude, des voix que vous entendez bien, et je voulais malgré tout vous livrer un épisode de Tech Café en bonne et due forme comme tous les 15 jours pour ne pas perdre le rythme. J'avoue que ces derniers jours ont été un petit peu compliqués en termes d'organisation, alors j'ai quand même ma petite veille que j'ai essayé de mener aussi bien que possible, et je voulais du coup participer, vous faire partager un petit moment en ma compagnie. C'est évidemment une expérimentation, le but c'est pas de faire souvent des Tech Café en individuel, mais c'est, parce qu'on perd un peu quand même le principe du café où on est censé débattre avec d'autres personnes, échanger, exposer des points de vue contradictoires, mais j'exclus pas de le faire une fois de temps en temps, selon les circonstances, selon les news, selon les humeurs aussi. Mais bien entendu, ça va être largement soumis à vos retours, à ce que vous m'en direz. Donc j'attends avec impatience vos commentaires, vos remarques, vos critiques, et puis surtout me dire si jamais cet épisode vous aura apporté quelque chose, au moins autant, je l'espère, que ne vous l'apportent les autres épisodes de Tech Café. Deux grandes rubriques que j'ai prévues pour cet épisode 51. D'une part, quelque chose qui va tourner beaucoup autour de Facebook, puisqu'il y a eu la conférence F8, qui est la conférence annuelle pour les développeurs par Facebook, où on a eu des orientations très intéressantes et une vision très très concrète des choses, pas du tout uniquement accès développeurs, mais très très facilement accessible pour tout un chacun qui consommons les techs aujourd'hui. Donc on va pouvoir passer ça en revue ensemble, et puis toute une série de petites news en bref, et en fait ce sera tout. J'ai voulu aussi un menu assez simple pour pas me perdre dans les méandres des news tech dans ce moment. Petit contexte d'enregistrement, je vais essayer de faire ça intégralement avec mon iPad. J'enregistre ça sans Zencaster pour une fois, je suis assez tranquille. J'enregistre avec l'application Ferrit et avec le Raspberry, le Blueberry, le Raspberry de Blue Micro, pardon, qui est accessible directement en Lightning. On va tester, on va voir ce que ça donne. Donc également dans les retours que vous pourrez me faire, n'hésitez pas à préciser aussi si vous avez des remarques sur la qualité sonore. Allez, on va passer tout de suite donc du coup à la conférence F8 qui s'est déroulée, dans laquelle il y a eu pas mal de petites choses qui ont pu être annoncées. Un petit élément de contexte, puisque il est beaucoup question de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 360 pour Facebook de manière générale, et à plus forte raison pour cette conférence. La petite anecdote, il y a tous les participants qui ont eu quand même vachement de chance, qui se sont vus offrir une caméra 360 qui est compatible donc pour mobile, hein, notamment, qui a été conçue par la startup Giroptic, qui est une startup qui est implantée en France et aux États-Unis, donc une forme de petit cocorico. Et c'est une caméra, c'est la Giroptic IO, qui permet de faire des tournages à 360. Moi j'avoue que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue technologie. Aujourd'hui je serais absolument pas trouvé la pertinence du contenu, et je pense que c'est d'ailleurs un petit peu le nerf de la guerre de ce type d'appareil, c'est que c'est bien d'un point de vue technologique, mais ça se prête à certaines circonstances. Et puis, il faut reconnaître quand même qu'il y a toujours ce petit problème qui vise à dire que quand on regarde une vidéo 360, bah, faut quand même avoir son attention de porter sur une partie de ce panorama. Donc, est-ce qu'il y a toujours vraiment systématiquement un intérêt à diffuser de la vidéo 360? Ça reste sujet à discussion. Il y a toujours ce petit effet waouh, ce petit effet prouesse technologique. J'ai vu des petites vidéos qui s'y prêtaient bien, notamment sur YouTube, de youtubeurs bricoleurs qui faisaient visiter leur garage. C'était assez sympa parce que pendant qu'ils parlent et pendant qu'ils montrent quelque chose, on peut aussi aller voir d'autres choses autour. Pourquoi pas? Et donc voilà, c'est une caméra qui est disponible pour le grand public. Hein, si aujourd'hui vous êtes intéressé, c'est quand même une caméra au prix de 249 €. Donc pas forcément donné, mais je crois que c'est un petit peu une des Rolls des caméras vidéo 360. Si vous avez des alternatives et si vous avez d'autres choses en tête, surtout n'hésitez pas à m'en parler. Ça m'intéresse d'essayer de voir ce qui se passe d'un point de vue panorama. Mark Zuckerberg est donc monté sur scène pour présenter les orientations de Facebook pour l'événement annuel le F8 et il a mis l'accent très rapidement sur un sujet qui, moi, à force d'être présenté comme élément futuriste, je pourrais rapidement être influencé pour percevoir ça comme étant vraiment un gadget qui traîne les pieds. C'est la réalité augmentée parce qu'on en parle assez régulièrement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas en tête ce qu'est la réalité augmentée, il s'agit de la possibilité de voir la réalité, comme ce que vous verriez avec votre regard, mais avec des informations en surimpression. Alors, un des éléments qui est peut-être le plus emblématique pour le grand public et qui permet tout de suite de percevoir de quoi il s'agit, c'est un élément qui est pourtant pas central dans l'application, mais qui est assez facilement reconnu par tous, je pense, c'est dans Pokémon Go. Quand vous passez votre caméra sur un paysage, vous avez le petit Pokémon qui s'affiche. Alors, c'est quelque chose qu'on peut désactiver, d'ailleurs. Moi, je me rappelle, quand je jouais à Pokémon Go, je le désactivais parce que ça claquait toute la batterie, mais c'est quelque chose qu'on voit assez bien, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer dans une rue, avoir notre smartphone qui pointe en direction de la rue, et il y a le petit Pokémon qui apparaît. Alors, c'est parfois d'ailleurs assez discutable d'un point de vue rendu, mais il y a de très belles avancées dans ce domaine-là. Et Mark Zuckerberg a du coup développé un petit peu cette technologie qu'il positionne comme un axe assez central dans le développement de Facebook et de l'écosystème Facebook. C'est la raison pour laquelle il explique qu'il y a eu des caméras installées partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans Messenger, Instagram, WhatsApp, Facebook, enfin tout l'écosystème de Facebook, il y a des caméras qui permettent de saisir ce qui se passe autour et de le diffuser évidemment très facilement, avec plus ou moins de succès. Hein. Autant Instagram réunit désormais 700 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même un chiffre assez incroyable grâce à ces stories, notamment, enfin ça en tout cas bien aidé au développement d'Instagram. Autant par exemple les stories sur Facebook sont hyper anecdotiques. Je sais pas si vous avez des stories dans votre Facebook et auprès de vos amis, mais de l'aveu de tous, c'est pas utilisé. Et on pourrait redévelopper ensemble le pourquoi ça fonctionne pas dans Facebook. Mais je pense que c'est pas trop le lieu pour cet épisode. L'idée, c'est vraiment de se centrer sur cette réalité augmentée. Mark Zuckerberg est assez affirmatif dans le fait que les Google Class qu'on nous a présentés, même s'il les cite pas directement, sont une bonne finalité. C'est-à-dire qu'à terme, on s'imagine bien avoir des lunettes, une paire de lunettes qu'on porterait au quotidien et qui permettrait d'avoir une vue en réalité augmentée par-dessus ce qu'on voit au quotidien, au même titre qu'avec notre smartphone, on peut déclencher ce type de fonctionnalité. Là où Mark Zuckerberg dit que c'est quelque chose d'idéal, il dit que il faut se calmer, il faut attendre un petit peu. Les expériences vont pas changer du tout au tout du jour au lendemain parce que la techno est pas là. Par contre, on peut mettre en place une plateforme dès aujourd'hui et développer les usages. Donc il y a grosso modo plusieurs types d'usage qu'ils voient. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, du fun. Notamment, il y a des démonstrations sur scène qui exploitent des nouvelles technologies avec de l'intelligence artificielle qui sont capables d'identifier le fait que on a par exemple un bol de céréales devant soi sur une table et le fait que on peut exploiter la réalité augmentée pour diffuser du texte en 3D dans cette scène et pourquoi pas faire des petites scénettes du style un requin qui tourne autour du bol de céréales pour animer et donner un petit peu de fun. Il y a aussi les aspects sociaux et pratiques. Donc par exemple, s'imaginer laisser une note virtuelle sur le frigo qui est lui bien physique le matin pour que monsieur n'oublie pas de déposer le courrier à la poste par exemple. Ça peut être ce type d'infos, ça peut être des plaques commémoratives ou de l'art qui sont affichées dans la rue et qu'on peut voir avec les lunettes en réalité augmentée. Ça peut être tout simplement aussi de la customisation de lieux. L'exemple qui est donné dans la conférence, c'est tout simplement la maison qui est transformée en château de Poudlard pour l'anniversaire du petit garçon de la famille qui est super fan d'Harry Potter. C'est plein d'usages assez effectivement fascinants, mais qui aujourd'hui sont plutôt frustrants parce qu'on n'a justement pas cette techno qui nous permet d'en profiter au quotidien. Et donc, il voudrait essayer d'aller plus vite que la musique, plus vite que ses concurrents, plus vite que Google, qu'Apple, et bien évidemment, je pense, son ennemi absolu du moment qui est Snapchat, côté Mark Zuckerberg, et mettre en place ce qui serait une première plateforme pour de la réalité augmentée. Et du coup, cette plateforme va être lancée, elle est lancée, là, et réservée pour l'instant aux développeurs qui seront retenus pour cette phase de bêta. On sait pas trop évidemment quelle proportion ça pourrait avoir, mais l'idée c'est de créer des filtres 3D comme on en a pour nos masques quand on utilise la caméra sur Facebook ou sur Snapchat, et puis surtout développer plein d'usages tels que ceux qui ont été décrits. Bon, en essayant de creuser un petit peu, ça semble quand même complexe d'arriver à obtenir l'adhésion de la part des développeurs, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de contrepartie dans la promesse et dans les usages, et on voit pas trop pourquoi les développeurs iraient s'investir à corps et à cri sur des proof of concept à la place de Facebook. Voilà, en tout cas, c'est une orientation forte qui est donnée par Mark Zuckerberg pour cette conférence. On sait d'ailleurs que Tim Cook, hein, le patron d'Apple, a été aussi séduit par le potentiel de la réalité augmentée et s'est pas mal exprimé par rapport à... Enfin, pas mal, c'est déjà exprimé par rapport à ça. On s'imagine que ça pourrait être quelque chose qui arrivera dans quelques temps, le jour où les technologies seront sans doute assez mûr. Autre sujet qui a été abordé, alors tiens, peut-être juste un petit clin d'œil, hein, on parlait de la réalité augmentée, de la concurrence qu'il peut y avoir avec notamment Snapchat sur les stories, avec les effets qui sont rajoutés en surimpression. Donc il y a des nouveaux filtres Snapchat 3D qui s'appuient sur la réalité augmentée qui sont en train d'être mis en place. Et puis on a aussi juste une petite info par rapport à la pub sur Snapchat qui se porte finalement plutôt bien. Là où moi j'étais assez dubitatif des gains que pourrait engendrer la pub sur Snapchat, c'est quand même un chiffre assez incroyable de plus 600% de publicité au premier trimestre 2017. C'est quand même assez bluffant parce que j'imaginais pas qu'il y avait autant de bénéfices. Il y a des projections qui indiqueraient que Snapchat devrait réaliser de près d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2017 contre 400 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2015, et ça devrait monter puisqu'on nous projette même 1,76 milliard de dollars en 2018. Bref, beaucoup de promesses de revenus publicitaires. Est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que cette tendance va vraiment s'accentuer? À suivre, évidemment. Facebook a également annoncé lors de ce F8 le lancement de Facebook Spaces en bêta. Alors Facebook Spaces, on va pas redétailler dans les moindres détails de quoi il s'agit puisqu'on en a déjà parlé dans des précédents épisodes de Tech Café. C'est cette espèce d'environnement de réalité virtuelle qui a finalement pas mal convaincu, je crois, des utilisateurs sceptiques des usages de la réalité virtuelle, en se disant que on pouvait très bien créer une espèce de mix. C'était Guillaume Poggiaspala qui avait trouvé cette image-là, un mix entre Second Life et les univers Mi de Nintendo, à la fois dans le ton, à la fois dans le rendu. C'est vraiment l'idée de se dire qu'on peut être en interaction avec ses amis en réalité virtuelle, et donc être dans un environnement physique, entre guillemets physique, qu'on peut influencer. Ben voilà, ça rentre en phase bêta. Ça a été annoncé durant cette conférence. Et bah voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous convainc. Moi je suis assez convaincu, mais là encore le parallèle avec la réalité augmentée est assez rigolo à faire parce que autant l'intention est là, la projection in fine est là, mais on n'a pas encore la concrétisation de l'aspect technologique. On n'est pas encore tout à fait convaincu qu'aujourd'hui ça pourra prendre rapidement. Autre sujet qui a été présenté durant cette conférence F8, c'est, tenez-vous bien, la communication télépathique, notamment pour apporter, bah, ça paraît trivial, mais une fois qu'on parle de télépathie, on peut s'imaginer tous les avantages que ça pourrait avoir, notamment la communication à travers différents langages, mais aussi exprimer encore plus rapidement ce qu'on pense. C'est pas sans évoquer, sans faire évoquer dans notre esprit le Neuralink d'Elon Musk, qui promet de faire une interface entre l'homme et la machine. Pour rappel, hein, Elon Musk, il a bien identifié le problème. Il dit, grosso modo, nous, on réfléchit super bien, on a un cerveau qui tourne plutôt pas mal. La machine fait un super boulot. Les deux sont finalement assez complémentaires, mais par contre, l'interaction entre les deux est super lente. Et on doit juste s'exprimer à la voix, saisir au clavier. Enfin bref, c'est des choses qui sont pas hyper fluides pour interagir. Et du coup il y a cette nouvelle société qu'il a créée, Neuralink, et là Facebook, ben c'est pas sans évoquer ça un petit peu, hein, c'est de mettre en place un dispositif qui permettrait de retranscrire des pensées à autrui ou à une machine directement depuis le cerveau, de manière aussi rapide qu'on peut partager une photo ou une vidéo sur Facebook. Et l'idée, c'est que ben on n'aura même pas utilisé nos mains, pas même utilisé un smartphone, mais que ça pourrait utiliser juste notre cerveau. Alors ça paraît complètement zinzin, et pourtant la personne qui est derrière ce développement, en tout cas qui est responsable de cette part de développement chez Facebook, dit bien que ça paraît impossible, mais qu'on en est plus proche que vous ne le pensez. Alors ça peut tout dire et rien dire. On a quand même pas mal de sujets dans l'univers de la tech où on est en droit de se dire parfois si c'est pas du flan. On se demande parfois si c'est pas du flan. Et ben là, on n'a pas plus d'éléments qui nous permettent de l'attester. Mais elle dit bien, une chose aussi simple qu'un moyen de répondre oui ou non par un clic du cerveau ou un cerveau souris serait un changement considérable. Et effectivement, on se met à rêver et à se dire, bah tiens, c'est vrai que toute l'interaction tactile, clic de souris, clic trackpad, clavier, etc., bah tout ça ne servirait finalement plus à rien. L'idée, ce serait de mettre en place une technologie qui serait pas intrusive, et qui serait même finalement quelque chose qui serait considéré comme de la technologie portable, quelque chose qui serait lors d'une manche de vêtements, on nous cite. Alors, en tout cas, remplacer l'implantation d'électrodes sur le crâne par des choses qui seraient beaucoup moins intrusives. Alors on a du mal, hein, encore une fois, à comprendre vraiment ce qui pourrait être mis en place. On est tout à fait en droit de rêver, quoi que on se rappelle quand même que c'est Facebook qui développe ça, qui est une société qui n'est pas sans évoquer certaines réserves quant à la vie privée, le partage des données. Si en plus on leur permet de lire nos pensées, je vous laisse imaginer à quel point ça pourrait faire flipper. On ne peut pas parler Facebook et cette conférence F8 sans évoquer le fait divers qui a eu lieu peu de temps avant la conférence. peu de temps avant la séance F8. C'est un meurtre qui a été commis aux États-Unis, qui montre clairement une personne qui est en train de tirer sur une autre personne et qui en plus avait diffusé, l'auteur du meurtre, hein, une vidéo dans laquelle il prévenait le fait qu'il allait commettre un meurtre et qu'il allait le diffuser. Donc, espacer les deux vidéos de seulement 2 minutes, et il y a eu pas mal de polémiques parce que cette vidéo, elle est restée un peu plus de 2 heures sur la plateforme Facebook avant d'être retirée par les équipes de Facebook. Et la manière dont ça s'est passé, c'est que Facebook ne détecte pas par algorithme aujourd'hui de telles vidéos. D'ailleurs, ils se refusent à le faire, et on est en droit d'ailleurs d'être d'accord avec eux sur le fait qu'il faudrait pas qu'il y ait non plus d'algorithme qui analyse les vidéos pour arriver à tolérer ou non la diffusion d'un live. Déjà, on sait qu'il y a des algorithmes sur Facebook qui interviennent pour limiter la diffusion, voire refuser la diffusion de publicité sur la base de l'image qui est utilisée. Eux, ils n'utilisent donc pas d'algorithme pour analyser des lives et puis les désactiver. Et donc, il se base sur les signalements. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui signale une vidéo comme ne correspondant pas à ce qu'on pourrait attendre d'une vidéo sur Facebook pour qu'il puisse intervenir. Et ils ont eu connaissance de l'existence de cette vidéo plus d'1h45, donc près de 2 heures après le moment de sa publication. Ils ont eu ce signalement-là parce que quelqu'un a indiqué cette vidéo comme choquante. Et par contre, ils ont réagi en 23 minutes. J'ai trouvé la façon dont Mark Zuckerberg a évoqué ce sujet durant la conférence. Il l'a évoqué de manière rapide et en même temps assez honorable, je trouve, où il a dit très clairement que déjà il adressait évidemment ses condoléances à la famille, et on sent qu'il a des mots qui sont à la fois très respectueux du contexte, mais en même temps qui n'en font pas des tonnes, des caisses, et qui ne surjouent pas du tout l'émotion, mais ils font aussi leur mea culpa en disant on sait que on doit s'améliorer et on va s'améliorer sur ce genre de dispositif, et voilà, ça fait plutôt une bonne réaction, je trouve, par rapport à ça. Et là où on pourrait taxer Facebook d'inactivité, d'inaction par rapport à ça, il faut quand même remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte et arriver à considérer le fait qu'il y a des choix, et ils ont fait le choix de pas utiliser des algorithmes par rapport à l'analyse des lives, et qu'ils réagissent par rapport au signalement, et qu'ils le font finalement assez vite, même si on aimerait que ça réagisse beaucoup plus vite dans ce genre de situation. Alors, dernier sujet, on s'éloigne un tout petit peu de la conférence F8, je voulais relayer un petit peu cette initiative d'un outil qui s'appelle Pop Your Bubble, qui vise à lutter contre votre bulle de filtrage. Alors, bulle de filtrage, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène dont on a déjà parlé, notamment dans le cadre des élections de Donald Trump aux États-Unis, qui a tendance à vous enfermer, un phénomène qui a tendance, à la fois d'ailleurs sociétal et en partie technologique, vous enfermer dans une vision, dans une considération politique ou sociologique des choses. Pour être très concret, on pourrait très bien imaginer que, étant de droite, vous vous entourez d'amis de droite, vous suivez des médias de droite, et sur les réseaux sociaux, vous vous informez donc principalement en ayant des sources de droite, ce qui aurait tendance, et c'est assez évident à concevoir quand on présente les choses de manière aussi caricaturale, mais je pense que ça se vérifie bien dans plein d'aspects du quotidien, on serait victime d'une bulle de filtrage, puisqu'on serait plus du tout exposé à des arguments contraires, à des arguments inverses, à des manières de nuancer les informations qui nous sont remontées. Et c'est quelque chose qui a été pointé du doigt par rapport à justement l'élection de Donald Trump, parce que on pourrait se dire que très facilement, on serait complètement biaisé dans notre vision des choses à cause de cette bulle de filtrage. Alors évidemment, au-delà du constat, on pourrait se dire, je vais être un peu réseaux sociaux responsables, bulle de filtrage responsable, et je vais aller suivre des gens qui ont des opinions inverses des miennes. Mais honnêtement, personne n'a vraiment l'intention réelle et le confort de faire ça. Et en plus, pour choisir qui, enfin, ce serait vraiment quelque chose de très très arbitraire. Et il y a justement un outil qui s'appelle Pop Your Bubble, qui vous propose de vous loguer avec votre compte Facebook, de lui accorder les droits d'usage qui vont bien avec les API Facebook, et ils vont scanner vos likes, scanner vos amis, essayer d'analyser un certain nombre de données, et vous suggérer de suivre 10 membres extérieurs à votre bulle de filtrage. Donc pas forcément de les demander en ami, hein, mais utiliser la fonctionnalité de suivre de Facebook, qui permet donc de voir les informations d'autres personnes remontées quand elles sont diffusées publiquement. Et c'est un outil qui propose tout simplement ça, c'est de suivre des personnes qui n'ont pas forcément votre vision des choses ou votre point de vue sur un certain nombre de sujets. Alors évidemment, c'est assez flou dans les usages parce qu'on ne sait pas lorsqu'on utilise cet outil et quand on va suivre des personnes qui ne sont pas dans notre bulle de filtrage, en quoi elles ne sont pas dans notre bulle de filtrage. Et les tests qui ont été menés jusqu'à présent, pour l'instant c'est disponible en test qu'aux US, hein, mais ça semble intéressant dans la démarche, intéressant par certains aspects, mais finalement assez flou en termes de résultats. On comprend pas trop parfois pourquoi est-ce qu'on peut être amené à suivre telle ou telle personne, et on arrive parfois pas trop à y voir la valeur ajoutée. Mais en tout cas, initiative très intéressante que je trouvais pertinente à être relayée. Et si jamais vous voulez tester, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Pop Your Bubble, qui est un outil, ma foi, fort rigolo dans son intention. Parti en bref pour ce 51e épisode. Je vais juste en quelques mots rappeler que Tech Café est une émission qui est financé par une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee, Tipeee.com, et qui alimente directement une activité d'auto-entrepreneur que j'ai créée il y a de ça pas très longtemps. Donc si vous appréciez Tech Café, si vous appréciez ce que ça vous apporte, si vous appréciez le contenu, si vous appréciez le ton, si vous passez un bon moment, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller d'aller jeter un coup d'œil à cette plateforme. Bien évidemment, l'émission reste en permanence gratuite et accessible à tout le monde en libre sans aucune condition, mais vous pouvez choisir de participer dès 1 euro par épisode pour contribuer au financement et du coup aller soutenir mon activité. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil donc sur la page Tipeee de Tech Café. L'adresse c'est tipeee.com, tipeee.com/tech-café sans l'accent bien entendu. Dans cette rubrique, en bref, on va parler d'un dispositif proposé par Microsoft qui nous propose tout simplement de réinventer l'identification. Alors aujourd'hui, on a un moyen assez simple de s'identifier, c'est de taper un login et un mot de passe. Et dans certains contextes qu'on souhaite un peu plus sécurisés, on peut choisir de rajouter la double authentification. Mais tout ça est finalement assez laborieux. Et Microsoft propose une solution alternative. C'est une application d'authentification Microsoft qui s'appelle Microsoft Authenticator, qui est dispo sur iOS et sur Android. Et quand vous avez fait les bons réglages qui vont bien sur l'application et que vous souhaitez vous loguer à votre compte Windows sur un des services, eh ben vous n'avez rien d'autre à faire que d'aller sur l'application mobile vous recevez une notification sur l'application et il vous suffit de valider la notification qui vous est proposée. Finalement, tout simple, mais il fallait y penser. Alors, je voudrais tout de suite rassurer ceux qui se diraient, ouais, mais si on n'a plus l'application, comment ça marche? Alors, c'est juste une méthode complémentaire. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser celle-ci, mais si jamais, à un moment donné, pour une raison X ou Y, vous ne souhaitez pas, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode d'authentification, vous pouvez aussi utiliser la méthode classique. Mais c'est quand même une initiative pour simplifier, parce que je me suis souvent dit, qu'est-ce que c'est idiot aujourd'hui, les logins de mot de passe, on y perd un temps assez incroyable et on est à peu près persuadé qu'à l'heure où on nous fait des captchas invisibles, tels que ceux qu'on relayait dans Tech Café durant l'épisode 50, on peut se dire, il y a quand même du mieux à trouver sur ce type d'authentification. Et et en plus, ça reste complètement sécurisé. Voilà peut-être de quoi nous changer la donne. Et peut-être que, allez savoir, dans quelques années, on n'aura plus besoin de se souvenir de tant de mots de passe que ça. Allez, c'est déjà un petit peu vrai grâce aux applications de sauvegarde de mots de passe telles que LastPass ou OnePassword, par exemple, ou même Dashlane. Mais voilà, c'est une méthode d'authentification complémentaire et assez novatrice, je trouve. Un petit mot pour relayer une initiative qui a fait du bruit et qui sera peut-être pas sans vous laisser indifférent, celle de Google, au travers de Google Chrome, de proposer un adblock. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, un adblock, c'est un programme que vous pouvez installer notamment dans votre navigateur et qui permet tout simplement, purement et simplement, de dégager les publicités qui apparaissent sur les sites. Alors, gain de temps, protection des données personnelles pour certains, sécurité pour d'autres, confort et optimisation de l'utilisation de la data pour beaucoup, surtout confort de navigation. Et on se dit comme ça spontanément, tiens, c'est pas étonnant, Google qui fait ses choux gras avec la publicité proposerait donc un adblock et donc serait un petit peu jugé parti parce que si la même société vous propose des publicités et vous propose un adblock pour bloquer les vilaines publicités, on pourrait se dire que il y aurait un conflit d'intérêts. Eh ben oui. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y en a un énorme et je suis extrêmement dubitatif quant à la pertinence qu'une seule et même boîte propose le navigateur, la pub et l'adblock pour du coup nous dire quelles sont les bonnes et les mauvaises publicités. Il y a déjà aujourd'hui des plugins d'adblock, notamment Adblock Plus, je crois, tout simplement, qui est peut-être l'adblock le plus utilisé, le plus connu, qui fait l'objet de grosses critiques dans la mesure où il faut maintenant peut-être parfois payer quand on est annonceur pour se faire laisser passer la pub par l'adblock. On voit que le sujet est un peu sans fin. Et moi, j'ai été très, très, très étonné. Oui, l'initiative de Google, elle est noble de nous présenter des publicités qui sont respectueuses de la navigation. Il y a notamment une coalition qui s'appelle la Coalition for Better Ads qui vise à justement définir ce que sont que les bonnes et les mauvaises publicités. Je trouve ça en tout cas assez discutable dans l'intention sans doute assez louable, mais dans la mise en œuvre, ça me semble vraiment très 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 curieux. Et le jour où Chrome va vous proposer peut-être même par défaut l'adblock d'activer, je pense que ça risque de faire un paquet de remous. En tout cas, c'est en cours de réflexion, voire de développement chez Google. Et évidemment, on ne sera pas sans relayer le sujet si jamais ça se confirme. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas à m'informer pour savoir si vous utilisez Adblock et quelle vision vous auriez d'un Adblock proposé par Google. Et puis on va terminer ce tour de piste final sur les fake news pour parler de une initiative que je trouve vraiment magnifique. C'est une initiative de la part du fondateur de Wikipédia, qui est quand même, quand on y pense, un des merveilleux outils de la tech d'aujourd'hui, qui, je le rappelle, contient une somme d'informations inégalée pour toute encyclopédie qui a pu être construite jusque-là, et qui a un niveau de justesse dans ses contenus qui, de par le recoupement d'énormément d'études, est bien supérieur là aussi aux encyclopédies qu'on peut avoir. Le taux d'erreur est finalement assez faible, même si on a tous une vision assez biaisée, parce qu'on se dit tous que tout un chacun peut aller mettre n'importe quoi sur Wikipédia, ce qui est vrai à un instant T, mais ce qui, en fait, dans les faits, dans le temps et dans la répartition des informations, ne se vérifie pas du tout. Donc, autre initiative pour les fake news, c'est Jimmy Wales, donc qui est un des fondateurs de Wikipédia, qui lance Wikitribune. Alors Wikitribune, c'est quoi? C'est l'esprit Wikipédia porté à la sauce des news. Tout simplement, imaginez-vous la construction de news sur la base d'un système comparable à celui de Wikipédia, c'est-à-dire très très participatif. C'est une nouvelle plateforme où il y aura d'associés dans Wikitribune des journalistes professionnels et des volontaires issus de la société civile, grosso modo des journalistes pros et des lecteurs. Donc les rédacteurs seront rémunérés pour leur collaboration à ce dispositif Wikitribune, j'ose pas dire un média, grâce à une campagne de crowdfunding. Donc il y a des fonds qui vont être recueillis qui vont permettre de payer les rédacteurs de cette initiative. Et puis bah on peut s'imaginer que ce sera un vrai site, un vrai média de news qui couvrira de la politique, mais qui pourra aussi se concentrer sur des news tech ou sur la science, les technologies, enfin vraiment tous les sujets qu'on peut voir abordés aujourd'hui avec des news. Chaque donateur à la campagne de crowdfunding aura aussi son mot à dire dans le choix des sujets à traiter. Donc en gros, ce sera un peu les rédac chefs, les contributeurs sont un peu les rédac chefs, et surtout les lecteurs pourront vérifier les articles, donc faire du fact-checking en temps réel et envoyer aux rédacteurs les suggestions de correction. Donc en gros, c'est vraiment, comme le dit Jimmy Wales, l'information par les gens et pour les gens. Ce sera la première fois que des journalistes professionnels collaborent avec des citoyens pour écrire des articles, les éditer, les enrichir, et tout ceci en étant soutenu et contrôlé par les lecteurs eux-mêmes. Je me demande si finalement cette initiative, là encore, hein, c'est du à chaud, il faut voir les mises en œuvre, la façon dont ça va vraiment se réaliser. Je trouve vraiment que c'est peut-être une des idées les plus belles qui ait pu être proposée aujourd'hui pour lutter contre la désinformation, le désintox et les fake news. Franchement, je vais aller jeter un coup d'œil de manière vraiment approfondie à ce dispositif, parce que ça me donnerait vraiment envie de soutenir ce type de projet et ce type d'initiative. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les fake news de manière générale et par rapport aux initiatives pour lutter contre les fake news. N'hésitez pas aussi à déposer un commentaire ou à réagir sur tout aspect de l'émission. Pour réagir, c'est très simple. Si c'est spécifiquement sur l'émission, vous pouvez aller déposer un commentaire sur techcafé.fr où vous retrouvez d'ailleurs toutes les émissions. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Tech Café et déposer un message en commentaire ou sur le mur, ou même contacter le compte Twitter techcafé_fr. Et si, à titre perso, vous voulez me joindre, moi, Guillaume Vendée, vous pourrez me joindre sur mon blog guillaumevendée.me, sur Twitter Guillaume Vendée ou sur ma page Facebook Guillaume Vendée. Je réponds partout, je suis très dispo pour interagir avec vous. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre soutien pour Tech Café. C'est une initiative qui se reproduira peut-être pas. J'attends en tout cas vos retours par rapport à ça, de faire une émission en solo, une fois n'est pas coutume. Merci beaucoup de votre fidélité en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.